RFI, grand reportage.
Les portes du Mexique sont désormais fermées à ceux qui veulent monter vers le nord. Ainsi, la caravane de migrants centra-américains partie en janvier dans l'espoir d'atteindre les États-Unis n'a pas survécu à son arrivée à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Arrestations, expulsions, usage de la force, le message est clair, les temps sont au durcissement, un durcissement derrière lequel beaucoup voient la main des États-Unis. Au sud du Mexique, l'autre mur de Trump, c'est un grand reportage d'Alix Sardi.
Nous sommes sur la rive du fleuve Suchiate qui sépare le Mexique du Guatemala. En ce chaud mardi de janvier, une armée de militaires vêtus de camouflage beige est postée le long du fleuve. Face à eux, sur la rive guatémaltèque, 3500 centra-américains se sont vus refuser le passage par le pont frontalier. Alors, ils traversent le fleuve presque à sec, à pied. En face, la garde nationale mexicaine, harnachée dans son attirail anti-émeute, les accueille avec des tirs de gaz lacrymogène. Il y a un an à peine, pourtant, le paysage était bien différent. Fin 2018, une caravane de 7000 migrants rassemblés fuyait la violence et la pauvreté de l'Amérique centrale. Arrivés sur les rives du Suchiate, ils avaient traversé le fleuve sur des radeaux de fortune dans l'euphorie pour poser le pied au Mexique sans encombre. En se constituant en caravane, au lieu d'affronter le chemin seul, ils avaient fait de cet exode un acte politique. Les caméras du monde entier s'étaient braquées sur une migration qui a toujours existé dans l'ombre, mais qu'on pouvait soudain observer à la lumière du jour.
Du Honduras, du Guatemala ou du Salvador, ils fuient la misère et la violence dans leur pays.
Une première caravane, suivie de
Dans les mois qui suivent, d'autres départs s'organisent, car la situation ne s'arrange pas en Amérique centrale. Jusqu'à ce qu'en mai dernier, les arrestations de migrants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis atteignent les 100 000. Un record qui déclenche les foudres de Donald Trump. En juin, il charge le Mexique de freiner ce flux migratoire coûte que coûte, sous la menace de taxes douanières faramineuses sur les importations de produits mexicains.
Le Mexique devrait empêcher ces migrants d'atteindre notre pays. Ils le feraient très bien si seulement ils en avaient la volonté. S'ils ne le font pas, nous leur imposerons des taxes. C'est au Mexique de montrer de quoi le pays est capable.
Le chantage fonctionne. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, fraîchement arrivé au pouvoir, doit renoncer à sa vision humaniste de la migration. Très vite, il déploie 6000 soldats dans le sud du pays pour freiner les migrants dans leur voyage vers le nord. Simon Trichot, de Médecins du Monde.
Sur le début de son exercice, il avait justement ce discours orienté vers les droits de l'homme pour venir changer la politique qui avait été implémentée jusqu'à présent. Voilà, ce discours, il n'a pas tenu longtemps. Et on peut même dire que cette politique migratoire, elle s'est empirée depuis l'administration passée. La politique migratoire ici au Mexique est complètement liée à la relation États-Unis-Mexicaine. C'est un accord qui avait pour objectif premier de restreindre les flux migratoires, de les contrôler et de externaliser les frontières des États-Unis en sens où ces frontières passent plus au sud, la frontière sud-mexicaine se convertit en un nouveau point de contention.
La ville de Tapachula est devenue en quelque sorte un mur avant le mur de Trump. Premier point d'étape pour qui entre au Mexique par le sud, c'est une ville colorée, décrépite et populeuse, habituée au passage des migrants, mais pas à leur séjour prolongé. Rizela est hondurienne. Elle patiente depuis 5 mois à Tapachula avec son mari et leurs deux enfants, dans l'attente d'une réponse à sa demande d'asile au Mexique. La famille n'a pas eu d'autre choix que de fuir le Honduras après être entrée en conflit avec un beau-frère. L'homme qui bat sa femme est membre d'un gang local. Il a menacé le mari de Rizela quand celui-ci a tenté de s'interposer.
On a pris la décision de partir sur le moment même. On a tout laissé derrière nous, tout. On est parti avec les vêtements qu'on avait sur le dos et un peu d'argent, c'est tout. On avait entendu dire qu'ici, avec le président López Obrador, c'était facile d'avoir des papiers. Alors on a sauté sur l'opportunité en espérant que peut-être au Mexique, on aurait un peu de liberté.
Pour l'instant, tout ce que Rizela a vu du Mexique, ce n'est pas la liberté, mais une ville qui ressemble à une prison à ciel ouvert, où elle attend désespérément des papiers qui semblent ne jamais venir.
La verdad que...
Franchement, je ne comprends pas pourquoi nos papiers mettent aussi longtemps à arriver. Vendredi dernier, on a eu un rendez-vous et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il fallait attendre. Mais il faut tout le temps attendre, attendre, attendre. Et on ne vous explique jamais pourquoi c'est si long. Je ne trouve pas ça juste.
À première vue, les bâtiments de style colonial qui bordent la place principale de Tapachula ont fière allure. Mais dès qu'on tourne le coin de la rue, la réalité reprend le dessus. La famille vit ici, à quelques mètres à peine du centre, dans une masure située dans une ruelle sombre.
Par ici. Entrez. Là, c'est la chambre où on dort. Et ici, c'est la cuisine, salon, salle de bain. Voilà comme on vit.
Rissella fait visiter son logement, un sourire gêné plaqué sur le visage. Seul un matelas et un réchaud, en équilibre précaire sur des parpaings empilés, meublent les deux pièces au mur sale. Pour faire marcher le réchaud, il faut enfoncer les fils électriques nus dans la prise. Rissella joint le geste à la parole.
On fait comme ça. Oui, c'est dangereux. Ici, on n'a rien, même pas de lit, on dort par terre.
Pourtant, la famille s'estime heureuse. Depuis que les migrants sont bloqués à Tapachula, les prix de l'immobilier ont flambé, à la grande satisfaction des marchands de sommeil.
On est 7 adultes, 2 ados et 2 enfants. C'est plutôt grand ici. Avant, on vivait dans une espèce de placard, comme on dit au Honduras, avec des toilettes, mais sans cuisine, sans rien. Ici, on paye 125 euros par mois. C'est beaucoup, je trouve, et en plus, il faut ajouter l'électricité et l'eau.
Après 5 mois à Tapachula, leurs économies ont fondu comme neige au soleil.
Mon mari ne trouve presque pas de travail ici et il est mal payé. Mais comme vous voyez, moi j'ai 2 enfants, je dois leur acheter des couches, du lait, de quoi manger. Ce qu'ils gagnent n'est pas suffisant pour ça. J'avoue que je pensais qu'on aurait une autre vie ici. Pas forcément vivre dans le luxe, mais en tout cas, pas autant dans le besoin. Parfois, on n'a plus rien à manger. Et ça me fend le cœur quand mon enfant me réclame à manger et que je n'ai même pas un peu de riz à lui donner.
Ici, tous les migrants tentent de survivre au jour le jour. Auparavant, obtenir un laissez-passer pour traverser le pays était simple et rapide. Un document que les autorités ont cessé de distribuer. Pour être en règle, la seule solution est maintenant de demander l'asile ou la résidence permanente. Des procédures longues et lourdes, alors que la plupart des migrants cherchent seulement à traverser le pays. Résultat, des mois d'errance dans les méandres d'un système migratoire débordé par l'afflux des migrants. Ana Elena Barrios, défenseure des droits des migrants au sein de l'ONG Fray Matias de Córdoba, va plus loin encore. Elle y voit une inertie calculée qui vise à saper la détermination des migrants.
Les autorités jouent un jeu cruel et pervers qui vise à avoir les migrants à l'usure. Ce sont des personnes qui vivent dans la précarité la plus totale depuis des mois, parfois carrément dans la rue. Et les institutions traitent cela comme un jeu en leur donnant des instructions contradictoires depuis le début.
Selon Simon Trichot, coordinateur de l'ONG Médecins du Monde sur la région, les autorités auraient les moyens de fluidifier les démarches administratives, mais elles ont d'autres priorités.
On a pu observer deux systèmes, donc le système de détention et de déportation très efficace, très rapide. Sur cette stratégie-là, effectivement, il y a un investissement important qui est fait. Face à ça, un système donc de protection internationale, de demande d'asile et de refuge complètement en crise. Un investissement qui devrait être fait sur des structures qui permettent véritablement de répondre à la crise migratoire ne sont pas mises en place, ça c'est clair.
Tous les migrants coincés à Tapachula luttent contre la précarité et le désespoir. Mais pour certains, la ville est aussi synonyme de danger de mort. Pour entrer dans cet hôtel reconverti en hébergement pour migrants, il faut montrer patte blanche. L'endroit est géré discrètement par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Il accueille des migrants qui ont demandé l'asile au Mexique et doivent impérativement rester sous les radars en attendant une réponse, car ils ne sont pas en sécurité à Tapachula. Lorena est de ceux-là. Cette Hondurienne vit cloîtrée dans l'hébergement depuis 5 mois avec ses 4 enfants. Elle ne parlera que sous pseudo et à la condition que la courette où nous sommes assises soit totalement vide. Au Honduras, elle a vécu une épreuve terrible. Toute la famille a été séquestrée durant 15 jours par un gang qui cherchait à recruter l'aîné de la fratrie.
Avec mes enfants, on a été séquestrés pendant 2 semaines dans notre propre maison. Mes enfants dans une pièce et moi dans une autre, où j'ai été abusée et violentée à l'extrême. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on travaille pour eux.
Un après-midi, les ravisseurs s'absentent. Et Lorena pousse ses enfants à saisir l'occasion et à s'échapper.
Je leur ai dit « Partez !» et ils me répondaient « Non, maman, on ne veut pas partir sans toi. » Et je les suppliais « Échappez-vous, échappez-vous. Tout ce que je veux, c'est que vous vous sauviez. Tant pis s'ils me tuent. » Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus de force. J'étais celle qu'ils avaient le plus maltraitée.
Finalement, la fratrie s'échappe et prévient la police, qui libère une Lorena très mal en point. Lorena et ses 4 enfants décident de fuir au Mexique par peur des représailles.
Tout ce qu'on voulait, c'était être en sécurité. Mais 15 jours après notre arrivée, mon fils est parti faire les courses au marché. Et là, il a vu un de nos ravisseurs. On s'est rendu compte qu'ils étaient venus à notre recherche. C'est pour ça qu'on a pu rester ici, parce qu'on a besoin d'être protégés. On ne sort plus, on reste enfermé. Pour nous, il est impensable d'aller se promener au parc, par exemple. On ne peut même pas travailler, parce que ça signifie devoir se déplacer matin et soir. Et chaque fois qu'on sort, on risque de rencontrer quelqu'un qui nous connaît et qui pourrait, sans faire attention, répandre la nouvelle de notre présence à Tapachula.
Mettre 2 pays de distance entre leurs agresseurs et eux n'a pas été suffisant. Les Maras, ces gangs d'Amérique centrale, ont développé leur réseau jusqu'au sud du Mexique. À Tapachula, pas un jour sans que la presse locale ne relaie leurs méfaits dans la région. Beaucoup de migrants, entassés dans des refuges de la ville, restent très méfiants, car ils savent qu'ils ne sont pas forcément tirés d'affaire. C'est le cas de José Quintanillo, qui a fui le Salvador à cause de l'extorsion qu'il subissait.
$500 par mois. Dans mon pays, on appelle ça le loyer. J'avais un stand de nourriture et il fallait payer. Mais j'ai fait faillite à cause de tout cet argent. Alors à un moment, je n'ai plus de quoi les payer, eux non plus. Et là, il faut partir, parce que sinon, ils s'en prennent à tes enfants. Ils arrivent et là, boum, 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 ils lui tirent dessus. Tu rates un paiement, 2 paiements, ils commencent à te dire, pourquoi tu prends du retard? Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais il va falloir me payer.
La cloche retentit, c'est l'heure du repas pour les enfants du refuge. Tout en accompagnant sa fille de 3 ans au réfectoire, José raconte la puissance des Maras de son pays.
On a décidé de venir au Mexique parce que ici, tu peux changer d'état, aller loin. Le Salvador, c'est trop petit. Ils sont plus organisés que la police. Si tu fuis ailleurs, tu dois dire aux délinquants de la nouvelle zone d'où tu viens et pourquoi tu as déménagé. Et s'ils se rendent compte que tu dois de l'argent...
Le père de famille prend les menaces qu'il continue de recevoir très au sérieux.
Le dernier message date d'il y a 5 jours. Fais gaffe à tes enfants si tu ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Je ne veux pas entendre encore une fois que tu n'as pas payé, parce que ça va mal se passer pour toi. Pour l'instant, ils ne savent pas où on se trouve, mais j'ai très peur qu'ils se rendent compte qu'on est ici. On sort le moins possible pour éviter tout problème.
Le danger est réel et bien connu des ONG locales, confirment les 2 activistes du Centre des droits de l'homme Fray Matias.
On dénonce cette situation depuis longtemps, la présence des agresseurs eux-mêmes à Tapachula. C'est quelque chose qui nous est rapporté régulièrement et on a d'ailleurs documenté des cas où les migrants ont été attaqués à Tapachula même par ces personnes.
Sufrido agresiones por parte de sus perseguidores.
La medida de protección a la persona sería moverla de Tapachula.
La mesure de protection évidente dans ce type de cas, c'est de mettre ces migrants menacés à l'abri hors de Tapachula. Mais l'Institut des migrations refuse sous le prétexte que ces personnes qui ont des démarches en cours doivent signer un registre régulièrement. Le rôle de ces institutions devrait être de protéger les migrants. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe. Elles deviennent des freins qui empêchent les gens de se mettre en sécurité.
Cette approche répressive de la migration a, selon les ONG, un prix, la santé des migrants. Nous sommes devant le centre de rétention migratoire de Tapachula, le plus grand de tout le Mexique. Ce bunker couleur crème aux aires de prison est un passage obligé pour tout nouvel arrivant qui veut obtenir des papiers. Les ONG, qui sont les seules à pouvoir y rentrer occasionnellement, dénoncent les conditions inhumaines de cette détention.
Centres de détention.
Les centres de détention ont reçu 3 fois plus de personnes que leur capacité d'hébergement. Il y a des femmes qui ont fait des fausses couches dans ces centres. À cause du manque d'hygiène, les gens dorment à même le sol, doivent passer des heures debout. Les soins médicaux sont défaillants. Même les fonctionnaires du ministère de la Santé disent qu'ils se sont vus refuser l'accès aux centres de détention. La situation à l'intérieur est dramatique. Début août, un migrant haïtien, Maxène André, est décédé en centre de détention. La version officielle de sa mort est en contradiction avec les témoignages sur place.
Maxène André est décédé au 20e jour de sa détention. Des témoins ont rapporté qu'il était malade depuis 15 jours et que les soins qu'il réclamait lui avaient été plusieurs fois refusés. Une négligence qui est loin d'être un cas isolé, dénonce Simon Trichaud de Médecins du Monde.
Effectivement, ce qu'on voit, c'est que la prise en charge, bien trop souvent, elle est faite dans des cas d'extrême urgence, c'est-à-dire que si la personne ne tombe pas dans les pommes ou si la femme enceinte ne commence pas à perdre les os ou à saigner, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de prise en charge. Où cette intervention ne se fait pas comme elle devrait se faire. C'est une réalité sur Tapachula.
Valeria Magnon travaille aussi pour Médecins du Monde. Cette médecin réalise des consultations hebdomadaires auprès des migrants.
La majorité des gens que je vois sortent tout juste du centre de détention. Ils parlent beaucoup des mauvais traitements reçus. Au-delà des maladies, à cause du manque d'hygiène par exemple, je constate beaucoup de problèmes de santé mentale.
Ce jeudi, elle reçoit Diana. Au premier abord, cette salvadorienne est simplement venue pour un problème bénin de tension. Mais bientôt, Diana se met à raconter son histoire.
Au Salvador, j'ai été séquestrée et maltraitée par 6 hommes dans une pièce sombre. Si on ne m'avait pas sortie de là, je ne serais pas ici pour vous le raconter. Quand j'ai été secourue, j'étais méconnaissable. Voilà pourquoi je suis au Mexique. J'ai tout laissé en plan et je suis partie. J'ai avancé prudemment pour me protéger des dangers. J'ai passé un petit moment caché dans une planque dans un village. Et là-bas, pas question d'aller chercher des médicaments à la pharmacie. Alors j'ai passé 1 semaine sans pouvoir les prendre. En arrivant ici, on a demandé directement de l'aide pour qu'on nous envoie dans un autre état du Mexique. Parce qu'à Tapachula, on a reconnu des personnes du Salvador et on se méfie. Il y a des fois, je me mets à penser et je rumine. Et ça me rend malade. Je sens que c'est la cause de pas mal de mes problèmes de santé. Parfois, j'ai l'impression que je vais devenir folle.
La médecin acquiesce.
Il y a beaucoup de somatisation, des problèmes physiques qui viennent en fait de situations de violence psychologique et qu'ils n'identifient pas. Ils ne prennent pas la mesure de l'impact des événements de leur vie sur leur santé mentale parce qu'ils ont d'autres priorités à gérer, comme trouver de quoi manger, un toit, éviter le danger, etc. Le problème de la santé mentale est généralisé chez les migrants.
Poussés à bout par le désespoir et le manque de moyens, certains prennent la route coûte que coûte. Et tous les moyens sont bons pour passer inaperçus. En octobre, un groupe de 14 Camerounais venus du continent africain dans le but de rejoindre les États-Unis s'est entassé dans une barque avec l'espoir de remonter la côte mexicaine par la mer pour échapper aux soldats qui surveillent les routes terrestres. Une vague a renversé le canot. Emmanuel Ngou, 39 ans, est mort noyé. L'un de ses compagnons est toujours porté disparu.
Ce qui peut se mettre en place ici, ce sont des répliques de ce qui peut se mettre en place sur le contexte migratoire de la Méditerranée, par exemple. On a assisté à un naufrage de personnes africaines quelques kilomètres de Tapachula. On est dans une situation similaire où la mer Méditerranée est un cimetière de personnes migrantes, comme peut l'être le Pacifique ici, sauf que c'est moins visible. Ce sont des politiques qui ont les mêmes orientations, à savoir comment faire en sorte de préserver l'opinion publique, mais tout en venant freiner la migration à des fins bien souvent électorales.
Le démantèlement de la caravane de janvier l'a montré, la frontière sud du Mexique est bel et bien devenue un mur. Un mur qui continuera de freiner les migrants tant que le président américain s'appellera Donald Trump.
Malheureusement, le seul horizon de changement que l'on voit, ce sont les élections américaines. En novembre prochain, d'ici là, on ne voit pas pourquoi les choses bougeraient. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero.
Au sud du Mexique, l'autre mur de Trump, un grand reportage d'Alix Hardy, Réalisation, Pierre Chaffange. Hey, hey.